Père Bruno Cader, bonjour.
Bonjour.
C'est du Brésil que vous nous arrivez, puisque depuis le 1er novembre 2005, vous êtes prêtre à Dorés, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, tout à fait. Dorés do Rio Preto.
En rural, dans l'état de l'Espírito Santo, vous nous direz tout à l'heure où ça se trouve et comment vous vous retrouvez là-bas. Vous qui avez d'abord exercé votre ministère en France depuis l'année de votre ordination en 90, vous êtes prêtre du Prado, vous êtes aussi médecin, même si aujourd'hui vous n'exercez plus. Vous avez été l'un de ceux qui ont fondé en France, ou en tout cas qui ont été très impliqués dans les soins palliatifs, et vous avez d'ailleurs écrit deux ouvrages sur le sujet. Vous êtes prêtre depuis 20 ans donc, et puis bien sûr vous avez eu aussi toute une vie avant de devenir prêtre. Vous êtes né en 1960 à Périgueux. Vous avez vécu votre enfance à Saint-Étienne dans une famille de 5 enfants dont vous êtes le deuxième. Alors en participant à cette émission, c'est un peu de cette vie que vous nous acceptez de nous partager. Et je voudrais que vous nous disiez justement pour commencer ce qui aujourd'hui, après toutes ces années de vie, que ce soit avant l'ordination ou depuis, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui essentiel, central? Qu'est-ce qui fait l'unité de cette vie-là?
Je me souviens d'abord de l'appel, j'avais 7 ans. C'était au collège jésuite Saint-Michel à Saint-Étienne. Le prêtre jésuite qui faisait le catéchisme passait des heures à raconter l'évangile, à raconter la Bible. Et ce jour-là, il a mimé l'appel de Samuel. Et je me souviens très très bien que d'avoir ressenti une émotion simple, mais de me dire « j'aimerais que ce soit toute ma vie, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et quand je relis ma vie 50 ans après, j'ai tout à fait conscience de ne pas l'écouter. Mais d'avoir toujours ce désir de l'écouter, oui.
Donc c'était déjà à travers la parole de Dieu.
Complètement. Et la conscience que Dieu parle aujourd'hui. Pas dans des grands bruits, pas dans des grandes émotions provoquées, pas dans des choses extraordinaires, mais dans la rencontre de l'autre, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la parole des responsables.
Et justement, quand vous nous parlez de cet épisode-là à 7 ans, vous retournez longtemps en arrière. Faire comme ça cet exercice de relecture de votre vie, c'est quelque chose qui vous parle et qui compte ?
C'était d'abord la base de notre formation dans les groupes de formation au monde universitaire. C'est aussi une partie très importante au Prado où on passe du temps à s'arrêter d'abord tous les mois pour faire révision de vie, pour relire. C'est en fait la pratique des premiers chrétiens. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est une succession de révisions de vie. C'est impressionnant par exemple quand Pierre et Jean vont au temple, qui guérissent ce paralytique. En lui disant « de l'or, de l'argent, on n'en a pas, mais ce qu'on a, on te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». On les voit après faire une relecture en direct devant les gens qui s'étonnent de voir cet homme courir, sauter, et qui relisent à la lumière de la parole de Dieu. C'est bien ce que les prophètes ont annoncé, c'est bien ce que David disait dans les psaumes. Et puis quand ils sont après ils se retrouvent au tribunal, c'est la même relecture qui est faite. Et ensuite, ils rentrent dans la communauté, ils re-racontent tout, et ça se termine par une prière. Et maintenant, regarde tes serviteurs, tu vois toutes les persécutions qu'on endure, et tends ta main, rends-nous capables de nouveau d'annoncer la parole et de faire des prodiges. Et vous pouvez reprendre de nombreux extraits des Actes des Apôtres, par exemple Pierre et Corneille, c'est toujours ce type de relecture. C'était les disciples d'Emmaüs aussi, c'est une très belle révision de vie.
Et justement, question peut-être bassement matérielle ou trop concrète, mais à quoi ça sert de relire comme ça?
C'est essentiel, c'est accepter le pain de chaque jour. On vit souvent comme si Jésus était mort, comme s'il ne faisait plus rien. Et beaucoup de prêtres sont, ou moi en premier, quand on arrête de s'arrêter pour relire, on est vite épuisé. On passe notre temps à donner et on ne prend pas le temps de recueillir. Pendant 6 ans, j'étais permanent du Prado, chargé d'aider mes frères à s'arrêter, à relire, à faire silence. Et c'est vrai que si on ouvre un agenda et qu'on prend le temps de faire mémoire des rencontres qu'on a eues dans la journée seulement, tout d'un coup on est étonné de tout ce qui est donné. Alors qu'on passe notre temps à voir tout ce qui manque, à voir tous les sujets d'inquiétude, et il y en a nombreux, et on oublie de ramasser la manne de chaque jour. J'avais été faire l'Exode en vélo, donc j'ai lu tout le livre de l'Exode en traversant le Sinaï, et c'est impressionnant la vitesse avec laquelle le peuple hébreu murmure. Il oublie très vite tout ce qu'il est en train de recevoir. C'est le problème des vies de couple aussi. On s'aime, on se choisit, et très rapidement on oublie tout ce qui est donné et on voit tout ce qui ne va pas. Et on ne voit plus tout ce qui est donné, la présence agissante du Christ.
Alors si on revient à quand vous aviez 7 ans, à ce moment-là où donc vous entendez cette lecture de la vocation de Samuel, et que vous vous dites, moi aussi je veux répondre comme ça à l'appel du Seigneur, dès ce moment-là vous pensez à une vocation de prêtre ou c'est pas du tout si clair que ça?
Si, c'était très clair. Et je me souviens du baptême de mon dernier frère, donc j'avais 8 ans. Et le prêtre me demande ce que je voudrais faire, et je lui dis, ben, je voudrais être prêtre. Et lui me répond, c'était un prêtre tradit, vieux. Et il a eu cette parole belle, enfin que j'ai jamais oubliée, il m'a dit, tu diras chaque soir, Sainte Vierge Marie, faites de moi ce que vous voudrez. Et j'aimais cette réponse parce qu'elle est complètement libérante. Hein, elle ne dit pas, ben, il faut absolument que tu sois prêtre. C'est une prière qui nous met dans cette attitude de disponibilité. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et qui évite de se focaliser sur une forme pour s'attacher à une relation et laisser un autre nous conduire.
Mais c'est aussi une déprise totale sur soi. C'est ma vie ne m'appartient pas, je ne décide pas ce que je veux en faire.
Oui, c'est difficile pour la société d'aujourd'hui. Je me suis passionné pour les questions d'euthanasie. Et justement, les gens aiment bien que leur vie leur appartienne, être maître de tout, c'est ça la dignité. Et en fait, on ne se rend pas compte que ça, c'est un carcan. Être maître absolument de tout, c'est réduire sa vie à ce qu'on en comprend. Et c'est ne plus pouvoir s'ouvrir à d'autres, à un au-delà de soi-même, au Christ, quoi. La déprise, c'est la liberté.
Et alors, à partir de là, à partir de ce moment où c'est assez clair que vous serez prêtre, ça reste un long fleuve tranquille ?
Oh que non. D'abord, j'étais turbulent. Et donc, j'étais exclu du catéchisme pendant un an complet, en cinquième. Ensuite, en fin de troisième, on a déménagé, je me suis retrouvé au lycée. C'était plus un collège privé, c'était plus un collège... Enfin, il y avait la mixité, j'avais 15 ans. J'ai aimé quelqu'un. À cette époque, c'est la période 75, hein, c'est une période de turbulence dans l'église. L'équipe de prêtres où on était au Creusot, une équipe jeune, dynamique, remarquable. Bon, avec les excès de l'époque, mais une équipe vraiment remarquable. Et attaquée par les chrétiens parce qu'ils avaient changé des choses, des lettres anonymes contre eux. Ils avaient fini par inviter ceux qui voulaient à venir les rencontrer. Et j'étais le seul jeune présent. Et je me souviens de toutes les personnes, les insultant, les critiquant. Un grand-père a fini par se mettre debout sur une chaise pour dire « Mais vous êtes fou ». Et moi, j'étais incapable de rien dire. Et pendant toute cette réunion, je me sentais attaqué. Quand on attaquait l'église, on m'attaquait. Ils avaient dit qu'il y avait 32 responsables d'ACE. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai seulement été dire à la fin « Je serai le 33e ». Et le prêtre qui m'a reçu m'a expliqué ce qu'était l'ACE.
L'Action catholique des enfants, non ?
Absolument. Il m'a dit, mais c'est bien gentil de s'occuper d'enfants, mais tu vas faire quoi dans ta classe ? Donc je me suis retrouvé à fonder une équipe de GIC, Jeunesse indépendante chrétienne, ce qui n'était pas évident de dire dans un lycée que j'étais croyant, en plus j'étais fils du patron, j'arrivais là d'ailleurs. C'était une expérience forte. Bon, dans le même temps, il y a eu donc, ce lien avec quelqu'un que j'ai aimé, où on a essayé de s'aimer de façon autrement qu'un flirt pour... sans rien, et je gardais cette question quand même. Et un jour, j'ai dit à ce prêtre, mais j'ai pensé être prêtre, et comment savoir, comment ne pas passer à côté de l'appel ? Lui était dans un moment où il était quand même à courir beaucoup, comme on le fait trop des fois comme prêtre. Il a apparemment pas entendu la question, en tout cas, il n'y a pas répondu. Et il a eu un moment difficile, il est parti faire une année sabbatique en abbaye, et là, il s'est souvenu. Et là, il m'a envoyé une carte disant, j'ai pas oublié ta question. L'important, c'est de rien préférer à l'amour de Dieu, et ça, c'est à vivre avec autant de force, en se mariant ou dans le ministère. Et je trouvais cette réponse extraordinaire. Elle disait, de fait qu'il n'y a pas une réponse supérieure à l'autre, elle était libérante. Après, je n'ai pas d'explication. Moi, je me suis dit, mais et s'il m'appelle jusque-là ? Donc, j'ai prévenu l'ami en question. J'étais plus au Creusot parce que je m'étais fait, disons... J'avais compris qu'il valait mieux que je quitte le lycée pour retourner ailleurs, vu mon côté turbulent. Elle n'a pas compris, elle a pensé que j'ai inventé une histoire. Et c'est là que j'ai à ce moment-là demandé à rentrer au séminaire, j'avais 17 ans. L'Église, à l'époque, a eu cette réponse que je trouve extraordinaire, et je regrette qu'elle ne soit pas plus promue aujourd'hui, a été de me dire, on te demande de ne pas rentrer au séminaire à 17 ans, d'abord pour ta liberté à toi, hein, qu'on n'abuse pas de ta générosité de 17 ans. J'ai traduit « doute de moi ». En même temps... j'avais conscience que c'était raisonnable. Mais j'étais pressé, j'avais pris une décision forte. Et l'autre raison était de me dire, on a besoin de former des prêtres à l'écoute de la société d'aujourd'hui et capables de parler dans les mots d'aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant, mais ça me paraissait très long. Et j'ai dit que je voulais faire des études de philosophie. J'ai pas dit que j'avais 5 de moyenne, parce que ça m'intéressait pas à l'époque. Ils s'en sont doutés, ils m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu aurais voulu vraiment faire ?» Je voulais faire médecine, mais 7 ans devant soi, 8 ans devant soi, ça, quand on a 17 ans, c'est impossible. J'ai accepté d'entrer en médecine en préparant le concours avec une seule intention, c'est l'avoir et arrêter. Et puis, j'ai en même temps découvert les GFU, qui existent encore aujourd'hui. Ce sont des groupes de formation au monde universitaire. C'est des jeunes qui pensent être prêtres, qui sont encore en train de discerner, mais qui en même temps ont une certaine décision intérieure, et plus le temps passe, plus elle est forte, et qui acceptent de faire des études profanes, qui peuvent être d'histoire, d'ingénieur, etc. Et donc, qui vivent la même vie que n'importe quel étudiant. Et cette vie-là est déjà formatrice. Et qui, par ailleurs, se retrouvent en vie d'équipe. Bon, à l'époque, on se retrouvait, on était assez nombreux en France, on était plus de 100. Malheureusement, des évêques ont beaucoup été contre cette formation. Mais il y a des évêques qui sont issus des GFU actuellement, l'évêque auxiliaire de Paris, par exemple, Jean-Yves Namias, mais d'autres. Et on se retrouve en vie d'équipe pour voir comment aujourd'hui on répond à l'appel de Dieu. Et puis il y a des week-ends de théologie, il y a des soirées de Bible. Il y a 3 semaines l'été, à l'époque c'était du côté de Limoges, à Solignac, maintenant c'est à Lyon, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une formation forte. Alors pour moi, il y a eu tous les temps de médecine, les heures passées au lit d'un malade, tout le travail de mise en place des soins palliatifs, ça m'a vraiment formé comme prêtre.
Et en même temps, le côté aussi fac de médecine, où c'est aussi un autre monde. Comment vous viviez cette double réalité-là?
Ben pour moi, c'est devenu une seule réalité. Mon projet, c'était d'aider des gens à découvrir le Christ, mais à vivre au milieu des étudiants dont la plupart n'avaient pas la foi. Accepter d'affronter dans ma propre chair la question de la non-foi, parce que quand vous voyez des jeunes mourir, la question de Dieu se pose immédiatement. Quand on a une formation scientifique, je peux pas dire la foi de la même façon. Donc j'ai même eu un moment, je peux dire, une année où la foi n'était pas évidente pour moi. Quand je raisonnais, je n'arrivais pas à voir. Je faisais confiance à la foi de ma famille, je faisais confiance à la foi de l'Église. Mais j'aurais été bien en mal de dire vraiment ma foi à ce moment-là. Paradoxalement, celui qui m'a le plus aidé dans la foi à ce moment-là, ça a été un cousin trisomique avec lequel j'habitais. Trisomique, mais on dit que les trisomiques sont très affectueux. Lui, il était plutôt violent et caractériel. Il était en pleine crise. Et dans le même temps, il avait un attrait pour Dieu que je ne savais pas expliquer. Quand je suis arrivé chez mon oncle et habité chez lui, il m'a d'emblée surnommé Bruno Alléluia. Personne dans la famille savait que j'étais en formation. Je n'en avais pas parlé. Et lui, d'emblée, me surnomme Bruno Alléluia. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et puis, il était tellement attaché à Dieu. Enfin, un jour, il visite une église. Il se sépare de la famille. Il fait tout le chemin de croix. Et il revient et il dit, Alors, il a fallu qu'on répète parce qu'il ne sait pas parler et qu'il vérifie qu'on entende ce qu'ils disent. Jésus, vilain monsieur. Et en fait, ça veut dire Jésus a été tué par les vilains monsieur et ça le bouleversait. Et mon oncle et ma tante m'ont demandé de le préparer à la première communion. Il avait 17 ans. J'avoue que je ne savais pas trop comment faire. Et le jour de la première communion, alors que c'était un moment de grande révolte, un moment où il rejetait tout, dès qu'on lui demandait quelque chose, il disait non et on mangeait à un moment donné sans assiette puisqu'il les cassait, quoi. Et on ne pouvait pas sortir chez d'autres gens. Les sœurs lui demandent de faire la procession d'offrande et il dit oui immédiatement avec un immense sourire et il traverse toute l'église en disant « c'est Jésus ». Bien sûr, la consécration n'était pas faite, mais c'est resté toujours un mystère pour moi. Et très souvent, d'ailleurs, c'est les plus petits qui m'ont conduit à Dieu, quoi.
Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui.
Grand témoin, RCF.
Bruno Cadard s'investit énormément dans ses études de médecine et participe à la Fondation en France des soins palliatifs. Pourtant, au moment de devenir prêtre, il fait un choix radical, il n'exercera plus la médecine.
J'ai un certain nombre d'amis qui ont tenu dans un même temps prêtre et médecin. Hein, par exemple, le vice-recteur de la Cato de Lille, Bruno Cazin, on était en formation ensemble. Il est un des meilleurs spécialistes des leucémies lymphoïdes chroniques, si je ne dis pas de bêtises, mais il me corrigera. Et il est en même temps vicaire épiscopal et en même temps vice-recteur de la Catho de Lille. Pour moi, la question, c'est, je m'étais engagé à fond au niveau soins palliatifs. C'était au moment où ça n'existait pas. Donc, quand on a commencé, on était en contradiction avec ce qui se faisait. Ça me prenait vraiment à plein temps. Il y avait le travail à l'hôpital, mais il y avait tout le travail de formation autour, tout le travail associatif. Dans le même temps, j'étais en paroisse. J'habitais en paroisse, tout en étant médecin, quoi. Mes dernières années JFU. Et à Villejuif, et très marqué par tous ces jeunes, tous ces ados qui ne rencontraient jamais de jeunes prêtres, pour qui Dieu était un étranger. Et je ne voyais pas bien comment mener les deux à la fois. J'étais saisi par tous ces jeunes qui ne peuvent pas penser que Dieu les aime. Et j'ai clairement dit que j'étais disponible pour... Enfin, que je ne souhaitais pas continuer l'exercice de la médecine. Mais j'ai gardé un pied, c'est en étant en séminaire que j'ai publié le premier livre. Et j'ai continué à accompagner des équipes soignantes, mais pas en étant acteur direct.
Et en même temps, les soins palliatifs, c'était un lieu vraiment où vous rencontriez les plus souffrants, les plus pauvres aussi, et qui vous mettaient en face directement avec ces bénis de Dieu, quoi.
C'est un lieu qui m'a profondément marqué, hein, en clair. Je me souviens, quand je suis arrivé à Lyon, au séminaire du Prado, dans la semaine qui a suivi, un directeur d'hôpital m'a appelé en disant « On sait que vous êtes à Lyon ». On sait que vous êtes séminariste, on a un poste de chef de service à vous proposer pour fonder les soins palliatifs, est-ce que vous acceptez ? Je me souviens de l'avoir remercié et d'avoir répondu en 30 secondes en me disant « si je fais 35 secondes, je vais dire oui ». Je ne sais pas expliquer ces réactions que j'ai pu avoir, hein, mais je crois qu'il y a des moments, pour moi ça a été comme ça, un renoncement. À partir de là, je me suis beaucoup lié aux jeunes dans les cités, d'abord au Minguette, puis ensuite à Champigny. J'ai jamais regretté ce choix, il y a différentes manières d'être prêtre.
Et comment vous relisez justement ces années-là, quoi ? Est-ce que c'était un temps du coup que vous auriez pu éviter, enfin, où vous auriez pu vous consacrer totalement à votre formation de prêtre, ou est-ce que c'était important de les vivre aussi, même si on peut se dire finalement il n'y a pas eu de suite, quoi, sur cette.
Il y a eu une suite. D'abord, des études comme ça nous forment profondément. Ma manière de dire ma foi est profondément marquée par ça. J'ai continué à aider des gens pendant des années, ce qui fait quand il y a eu une réédition en 2003. En une semaine, j'ai rajouté 200 pages. Et uniquement à partir de ce que j'ai vécu après. C'est-à-dire que j'ai continué à accompagner des proches, des gens en paroisse. Ça m'a surtout marqué sur la manière de dire la foi, d'écouter. L'accompagnement des mourants nous met complètement à l'école de celui qui souffre, nous apprend à ne pas avoir de discours sur la souffrance, mais à savoir se taire, à savoir écouter, à savoir... Non, ce n'est pas une parenthèse. Je suis resté en plus médecin dans l'âme. Au point que parfois ça gêne des copains, parce que dans une situation, je vais faire immédiatement un diagnostic, prévoir des examens complémentaires et proposer un traitement. Et des fois, ça, c'est pas forcément facile dans la relation.
Alors, c'est dans cette période-là aussi que vous rencontrez le Prado. Comment ça se passe, cette rencontre-là ?
Je sais pas pourquoi, j'étais convaincu de vouloir être prêtre diocésain. Ça, c'était ancré en moi. En même temps, l'image que j'avais du prêtre diocésain, je ne dis pas que c'est ce que j'ai découvert autre chose depuis, hein, mais l'image, c'était des prêtres isolés, chacun dans son côté. J'avais surtout une conscience forte de ma fragilité. Et ma question, c'est qu'est-ce qui me permet de penser que je vais pouvoir tenir, hein. Beaucoup d'amis proches ou de gens de ma famille ont été prêtres, ont arrêté au bout de 5 ans, ou un peu plus. Et j'avais une conscience très forte de ma propre fragilité. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait penser que je peux tenir ? Je suis souvent sensible à toutes les... Ce qui scandalise les gens dans notre vie de prêtre, quand on ne le vit pas bien. Combien de gens quittent l'église parce qu'ils ont été blessés par telle parole qu'éventuellement le prêtre n'a pas dit méchamment. Enfin, et ça a été vraiment une question lancinante. Hein. Je me souviens d'avoir été en Israël, parce que j'ai accueilli pendant 6 mois dans ma chambre 2 Palestiniens. On a vécu dans les mêmes 4 mètres carrés ensemble. Et j'avais absolument voulu aller pêcher sur le lac de Tibériade. Il y a eu la tempête d'ailleurs. Et j'ai passé toute la nuit à regarder cet homme qui pêchait, et avec cette obsession qui revenait tout le temps, mais il est fou, Jésus. Il choisit un homme comme ça pour être responsable de son église, un homme sans formation, un homme avec son caractère, je pensais à Pierre, bien sûr. Et pour moi, ça a été libérant de me dire, accepte qu'il te choisisse avec tes limites. Mais dans le même temps, j'avais la conscience qu'il fallait d'autres frères qui m'aident. Donc j'ai même regardé beaucoup du côté de la Mission de France. À ce moment-là, j'avais quasiment signé à la Mission de France. Et un ami séminariste du diocèse d'Autun, auquel j'étais rattaché à l'époque, m'a invité à venir un week-end à Limonest. J'ai posé aucune question.
À Limonest, donc où est la maison mère du Prado.
Je ne savais rien du tout sur le Prado. La seule image que je pouvais avoir, c'est que c'était un truc pour des gens pauvres, mais que moi j'étais de milieu riche. La session, le thème, c'était « Dieu nous façonne ». Et un séminariste a témoigné qui, en fait, était arrivé au séminaire malade alcoolique. Il a raconté son premier week-end dans le Beaujolais et comment il est rentré en brouette au séminaire. Et il a témoigné de comment, pour lui, l'important, ça n'avait pas été d'abord de sortir de l'alcool, ça avait été d'abord d'accepter que le Christ l'aime jusque-là. Et on a parlé longuement, et pour moi, ça a été lumineux. J'avais besoin de frères qui m'aident à me laisser rejoindre jusque dans ma fragilité. Et quand je me suis engagé au Prado, j'ai pas eu la conscience de m'engager moi. J'ai eu la conscience d'engager les autres. Je les ai engagés profondément à ne jamais avoir peur de m'interroger sur tout, sur toute ma vie, et sans peur. Quand je suis arrivé à Champigny, j'étais très confiant en moi. J'ai vu quand même d'autres jeunes prêtres arriver et avoir des premières années difficiles. Et avec un ami, on s'était mis un jour de repos en commun, en plus de la réunion d'équipe. Et au bout de 3 mois, j'arrivais dans une succession difficile. Je disais toujours que c'était dur, et je me souviens du frère me disait « Mais assieds-toi et dis-moi, pourquoi c'est dur ?» Et me donnant des conseils. Et puis l'année d'après, j'ai eu un moment de fatigue forte. Et le responsable du Prado de France est venu me voir, appelé par les copains, en me disant « Raconte-moi, qu'est-ce qui est dur ?» Et j'ai pu dire. J'ai beaucoup aimé sa réponse, parce que tous les autres me disaient « Mais t'es trop idéaliste, fais-en moins, rêve moins, cherche pas toujours la perfection, ou de l'Église. » Et lui m'a dit « Tu devrais faire une étude d'évangile sur les souffrances et les combats de Paul. » Et j'ai pris à partir de là, toutes les semaines, je prenais mon lundi complet pour faire du vélo, mais pour passer des heures dans l'évangile. Et j'ai relu tous les actes des apôtres, toutes les lettres de Paul, en regardant tout ce que Paul disait sur les combats, les souffrances, et qu'est-ce que ça faisait grandir en lui. Voilà, le Prado pour moi c'est ça. C'est une équipe de frères avec lesquels on s'aide à se laisser rejoindre par le Christ. Avec lesquels aussi on s'interroge toujours, mais t'en es où l'étude d'évangile? T'en es où ton lien avec l'ensemble des prêtres? T'en es où ton lien avec les plus pauvres? Et puis c'est un lieu où on passe des heures à repérer, mais cette semaine, où est-ce que tu as perçu le Christ? Où est-ce que tu l'as rencontré? On fait cahier de vie, comme on dit.
Alors Champigny, où donc c'était pas facile au début, c'est votre premier lieu d'insertion comme prêtre. Qu'est-ce que vous avez vécu là?
Alors j'ai d'abord eu la chance d'être en équipe. En équipe de prêtres, on était plusieurs, avec un vrai partage, avec des religieuses. Une banlieue comme toutes les banlieues, quoi, donc avec plus de 50 nations présentes.
Donc diocèse de Créteil.
Oui, avec les grandes cités. Champigny avait la particularité d'être un lieu historique d'arrivée des Portugais. Il y a eu un bidonville où ils ont même mis le drapeau portugais à un moment donné. Donc j'ai dû apprendre la langue immédiatement, partir dès mon ordination, passer un mois à Coimbra. J'ai découvert la jeunesse ouvrière chrétienne que je ne connaissais pas. Et c'était une chose un peu particulière. Il y avait plus de 100 jeunes en équipe JOG dans la paroisse. Dieu sait ce qu'en ont pas 10. Et pour moi, c'était un émerveillement de voir ces jeunes se retrouver régulièrement, réfléchir leur vie, essayer de la changer. Ça a été un émerveillement aussi d'entrer dans une mentalité complètement différente. Je prends un seul exemple. Les Portugais étaient très portés sur le chapelet. Moi, j'étais élevé dans une famille qui n'était pas du tout portée sur ce genre de choses. Et je ne pouvais pas dire c'est des bêtises. Il m'a fallu donc accepter de le prier. Ils allaient à Fatima. La première chose que j'ai faite, c'était l'été après mon ordination, d'aller à Fatima et d'aller confesser. Alors que je ne maîtrisais pas complètement la langue. Et de sortir de mes schémas pour accueillir la foi de l'autre. Et je garde des rencontres, que, par exemple une famille. À chaque fois, les gens, ils aiment aller à Fatima, ils y vont à pied, et puis après ils vont se traîner à genoux tout au long de l'esplanade. C'est insupportable pour moi, étudiant en médecine. Bon. Et à chaque fois qu'ils venaient se confesser, je posais cette question, mais est-ce que vous aviez une raison particulière de venir cette année? Je me souviens d'un homme qui dit, ben oui, il y a un an j'ai fait une promesse, je buvais. Ma famille m'a appelé, m'a prié, et j'ai accepté de venir à Fatima, et cette année je viens remercier. Et j'ai confessé toute la famille en suivant qui venait rendre grâce. Ça m'a appris à sortir de mes schémas, quoi, à regarder ce que Dieu fait d'une autre façon dans des cœurs d'hommes.
Et pour autant, ça ne change pas votre manière à vous d'exprimer votre foi, ou aussi ça l'a ouverte et diversifiée?
À la fois ça ne la change pas et ça l'enrichit. Enfin, je garde la même foi très rationnelle. Mais j'accepte d'entrer dans d'autres démarches et aujourd'hui je prie le chapelet tous les jours.
En français ou en portugais?
Toujours en portugais.
Deus enamorou-se de ti, Maria, em Nazaré. O coração do Pai bateu forte junto ao teu. Foi amor, foi amor. O pai com esperança acreditou que alguém dissesse sim a seu plano de salvação. E envia um anjo a ti que anuncia a boa nova. Deus se faz irmão, menino.
Grand témoin, Anne Kerléau.
Pendant les 7 années qui suivent son ordination, de 90 à 97, Bruno Cadard est vicaire à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il y expérimente la vie d'une paroisse de banlieue.
C'est la vie d'un prêtre en banlieue, donc elle est... D'abord la chance et la richesse d'Église de France d'avoir des réunions d'équipe pastorale, hein, où régulièrement on regarde la... Et en plus, dans cette paroisse, on était très aidé par Jean-Pierre Roche, qui est un prêtre un peu connu, qui a écrit des livres, et qui m'a beaucoup formé, hein, justement, à ce travail de relecture. On va prendre, par exemple, la réalité portugaise, on va prendre le temps de se dire tout ce qu'on voit de l'œuvre de Dieu, puis après, qu'est-ce qu'on peut semer. Ça a été la chance de découvrir l'action catholique, qui a souvent été décriée, caricaturée, et qui n'est pas ce que les gens en disent, avec une forte richesse de, à la fois de savoir regarder la vie, de savoir s'y impliquer, et puis une forte richesse spirituelle. Enfin, la richesse spirituelle de la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est impressionnant de voir des jeunes prier avec leurs mots. Essayer de dire leur foi dans des lycées, c'est pas simple. Et puis, ben, c'est beaucoup d'appels de gens en difficulté qui nous appellent pour les rencontrer, pour les visiter.
Et là, quelle place à cette période-là de la parole de Dieu dans votre quotidien, à vous personnellement, puis avec aussi la communauté, les gens que vous rencontriez?
Dès les premiers jours, une certaine Louisa, qui est une femme qui a perdu deux enfants successivement, un an d'intervalle, qui était très cassée, d'une famille très pauvre, qui arrive en France comme beaucoup de Portugais en ayant 3 ans d'école primaire, sans parler la langue, et qui a été très aidée par les prédécesseurs, est venue me demander d'animer des équipes de partage d'évangiles. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que mon prédécesseur animait à lui seul 30 équipes. Je me suis dit, mais si j'anime 30 équipes, c'est une vie de fou. Ensuite, je connaissais bien la démographie des prêtres. Je me suis dit, mais si je fais ça, demain, il se passe quoi? Et donc, il y a eu un moment de lutte avec elle. Donc, j'accepte de t'aider à lancer une équipe, mais je n'irai pas à l'équipe. J'accepte de te former à ça. Elle a résisté un moment, et puis elle a accepté. Et au début, c'était une équipe qui se retrouvait tous les mois. Ils lisaient 2 chapitres. Ils ont commencé par un évangile, puis ils ont lu les Actes des Apôtres, puis ils ont lu plein d'autres livres. Et l'idée, c'était, il y a plein de choses que vous ne comprendrez pas, mais vous laissez tomber. Quand on veut rentrer dans une maison, s'il y a une porte force fermée, on va chercher la porte qui est ouverte. Donc vous chercherez ce qui vous parle, même si vous ne comprenez pas le reste. Et pour éviter que quelqu'un fasse un discours, vous parlerez bien à tour de rôle. Les gens essayant de préparer chez eux avant, parce que le fait d'oser lire la parole chez soi, même si on a du mal à lire, aide à... C'est une décision déjà qui ouvre à Dieu. Hein. Et vous partagerez la parole de vie. L'équipe a très bien marché. Au bout d'un... Rapidement, elle en a semé d'autres. Il y en a eu 10. Donc après, j'animais les rencontres d'animateurs de groupe. Et puis un jour, j'ai dit, je vais arrêter d'accompagner les réunions d'animateurs. C'est toi qui vas les animer. Et moi, j'accepte de... de reprendre avec toi entre ces rencontres. 20 ans après, il y a toujours des équipes. Et j'étais émerveillé, enfin, ça a marqué beaucoup mon ministère. Hein. Une expérience forte, ça a été un jour, à la fin de la messe, une Capverdienne vient me voir, un Capverdien. J'ai rien compris de ce qu'il me disait, j'ai compris seulement qu'il souffrait et que c'était urgent d'y aller. J'étais pressé, j'avais autre chose à faire l'après-midi, j'étais fatigué, mais je me souviens d'avoir perçu que c'était le moment d'y aller, quoi qu'il arrive. On s'est retrouvé au 14e étage. Et là, il y avait une femme qui était arrivée du Cap-Vert, qui ne parlait pas un mot, qui était enceinte. Dans leur créole portugais, j'ai fini par comprendre que son mari était venu seul, s'était retrouvé isolé, ça avait été l'alcool, ça avait été les prostituées, tout son idéal qui s'était cassé. Maintenant, il retrouvait sa femme, elle faisait manifestement une dépression de la grossesse. Alors, il racontait plein d'esprits, plein de choses. J'écoutais pendant 1 heure, et puis, au bout d'un moment, en fait, ils ont perçu qu'il n'y avait pas des tas de forces, mais que... qu'ils avaient besoin de se retrouver devant Dieu, et les deux ont demandé le sacrement de réconciliation. Ils ne demandaient plus d'exorcisme ni rien. Et à la fin, je leur ai demandé s'ils connaissaient d'autres Capverdiens. Ils ont dit « Oui, on est très nombreux ». J'ai dit « Mais moi, je ne les connais pas, il n'y a que vous qui pouvez les réunir. Est-ce que vous accepteriez de les inviter ?» Et on a marqué une date. Quand je me suis retrouvé, ils étaient 6. Et j'avais prévu un temps de partage d'évangile, sauf qu'il n'y en avait qu'une qui savait lire. Et pendant tout le temps de partage d'évangile, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Enfin, je suis complètement à côté de la plaque. Et à la fin, cette femme, Benvinda, me dit « T'inquiète pas, on va enregistrer des cassettes ». Et donc la fois d'après, j'ai préparé avec Benvinda, c'est elle qui a voulu lire. Honnêtement, je lisais mieux le portugais qu'elle. Elle, elle parlait créole en fait, normalement. Et on a enregistré la rencontre de Pierre et Corneille. Hein, c'est deux chapitres des actes, pas si simple. Chacun a eu sa cassette et l'a lu, l'a écouté pendant tout le mois. On avait marqué un rendez-vous un dimanche à 2h. À 2h, j'y étais là, il n'y avait personne, ça c'était prévu. J'avais amené de quoi lire pour rester patient. À 3h, on a commencé, il y avait 14 Capverdiens, entre 17 et 30 ans. C'est Benvinda qui a commencé à... Je lui ai dit, moi je ne parle pas le créole, je ne sais rien faire, c'est toi qui animes. Donc elle a fait ses chants, et puis elle a démarré la même technique qu'on avait lancée avec Louisa. Et Benvinda prend la parole la première en disant, ben moi la parole qui m'a touché, c'est quand Pierre dit, à moi Dieu vient de me faire comprendre qu'il fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Parce que vous savez tous ma situation. Vous savez que l'homme avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Et puis il y en a qui... on m'avait mis dehors de l'église parce que je ne suis pas dans les règles. Et je sais qu'il y en a qui murmurent ici parce que c'est moi qui anime. Mais moi, j'ai compris que Dieu m'appelait. Puis on chante un refrain, on passe au suivant qui dit, ben moi, c'est la même phrase. Parce que vous savez comment on est. On a tellement honte de notre histoire que quand on rencontre un autre Capverdien dans le métro, on essaie de lui faire croire qu'on n'est pas Capverdien. On lui dit qu'on est Africain. Et ça m'avait impressionné. J'ai jamais entendu un peuple dire ça. Et les 14 ont pris la parole, mais extraordinaire. Et j'étais tout heureux. Et Benvinda me dit à la fin, la prochaine fois tu reviens pas. Et là je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, elle me dit non, t'inquiète pas, c'était super, mais il y en a d'autres qui ont besoin. Nous maintenant on est capables, tu vas fonder avec d'autres. Je n'ai jamais entendu aucun groupe me dire ça. J'ai toujours vu des groupes se plaindre parce qu'ils n'avaient plus de prêtres, je n'ai jamais entendu un groupe me dire va vers d'autres. Donc on a préparé avec elle, on a réenregistré une cassette, et quand on a fait la reprise, elle me dit, ah mais c'était vachement mieux quand tu y étais. Parce qu'on ne s'est pas gêné, on a parlé qu'en créole. Et ce groupe a cheminé longtemps, de gens très, très, très pauvres, très marqués. Bon, c'est autant d'expériences qui m'ont convaincu que la parole de Dieu avait une force extraordinaire. Ce qui m'avait marqué aussi au même moment, c'est des jeunes qui venaient demander la foi, hein, qui devaient demander un baptême. Il y avait une aumônerie qui était un peu, qui manquait de contenu avant que j'arrive, où c'était beaucoup de groupes sympas, mais rien sur la parole de Dieu. Et je leur avais dit, ben, vous continuez ce que vous voulez, mais là, il y a une personne qui demande le baptême, est-ce qu'il y aurait ne serait-ce qu'une ou deux qui accepteraient de venir avec nous? Et après s'être présenté, j'aurais proposé de lire tout l'évangile de Marc d'un coup et de venir dire ce qui les avait touchés. Et j'ai lancé une manière de faire du catéchuménat de ce style qui m'a accompagné pendant 9 ans, hein, où on lisait, puis chacun commentait, et j'étais saisi par les lectures que font les gens. Et la force de la parole de Dieu.
Alors, vous parliez tout à l'heure, quand vous avez rencontré ces Capverdiens, la première fois qu'on est venu vous chercher, c'était au départ une demande d'exorcisme. Ça, c'est quelque chose qui va se reproduire. Après, vous avez même eu une mission un peu spécifique de cet ordre-là?
Non, j'ai jamais eu une mission spécifique.
Des demandes, en tout cas.
Ah, des demandes, énormément. J'ai passé des heures chaque mois pour des gens qui demandaient, qui avaient des histoires d'esprit. Les Portugais sont très marqués par ça, les Africains aussi, les Antillais. Et j'ai toujours pris très au sérieux ces expressions. Et en fait, j'écoutais pendant une heure, je laissais tout venir sans dire c'est pas vrai, etc. Puis après, je posais souvent une question, mais il n'y a pas eu un événement difficile, un deuil, un avortement, un inceste. Et à chaque fois, c'était ça. Il y avait d'autres fois des dépressions, j'ai parfois orienté sur des hôpitaux psychiatriques quand c'était des urgences. Mais ça a toujours été des moments d'entrée en contact, pour moi, d'écoute de leur vie. Benvinda a raconté sa vie après, elle a expliqué comment elle était au Cap-Vert, comment elle avait été violée. Comment elle avait été exclue de la communauté, comment elle était arrivée seule en France, n'ayant qu'une adresse, rejetée de cette adresse, passant à une autre. Ils étaient deux hommes, deux femmes dans la même pièce. Un homme voulait absolument coucher avec elle. Elle a résisté une semaine sans dormir. Et puis elle s'est mise avec cet homme, qui a 30 ans, qui ne sait pas dire son âge, qui est violent. Et elle ne pouvait plus le quitter. C'est ça leur histoire derrière, hein. J'ai été impressionné de voir comment l'écoute que j'avais pu avoir, le groupe d'évangile, lui permettait d'exister, lui permettait de refonder un groupe, et elle lui a permis de se libérer après.
Alors Champigny, ça a été 9 années, c'est ça?
7 années, puis ensuite 2 ans à Vitry.
Et puis, donc à Vitry, c'est aussi un...
Même ministère.
Et puis ensuite, donc, un temps de plusieurs années au service, cette fois-là, du Prado. Alors là, un ministère assez différent.
Complètement différent. C'est marrant, enfin, il y a des choses que je ne sais pas expliquer. Dans les semaines qui ont précédé l'assemblée des prêtres du Prado de France, j'ai régulièrement pensé, rêvé, à l'éventualité d'une élection, alors que quand j'analysais, c'était pour moi évident qu'il y avait zéro chance. Mais ça revenait tout le temps.
Et qu'est-ce qui vous séduisait, justement ?
Mais rien. J'étais convaincu d'être absolument incapable, que c'était pas mon style et que moi, j'étais heureux au milieu des gens. Et que j'avais besoin d'une paroisse. Et je me souviens d'être allé voir mon accompagnateur, Olivier de Béranger. Et on avait parlé. Je n'avais pas parlé de ces insomnies. J'étais convaincu que c'était des idées qui n'avaient pas de sens, quoi. Et je me souviens, à la fin, de lui avoir dit « Ah, mais j'ai oublié un truc ». Mais je sais pas si c'est une idée simplement que j'ai en tête de temps en temps, mais j'ai l'impression que si jamais ça arrivait, je serais incapable et j'y serais jamais heureux. Il m'a dit, mais tel que je te connais, tu as parfaitement raison. Donc il m'a encouragé à dire non. Et cette même obsession est restée tout le temps et il y a eu l'Assemblée du Prado de France. J'avais prévenu un seul copain. Il y a eu les élections, on a élu quelqu'un d'autre. Il m'a dit, alors, c'est quoi tes idées? Je me souviens de lui avoir répondu, mais si c'est pas seulement de l'imagination, les élections sont pas faites encore. Et de fait, ils ont appelé l'évêque de cet autre prêtre qui n'a pas libéré ce prêtre. Et en fait, j'ai été élu. C'est une expérience qui m'a impressionné. À plusieurs reprises, là et à d'autres moments, dans des camps. Et j'aime pas trop le dire parce que ça va contre tout ce que je suis. Je fais l'expérience que le Christ agit sans doute beaucoup plus qu'on l'imagine. Des rencontres, des moments qui sont pas fortuits. Quand vous lisez les actes des apôtres, ils arrêtent pas de dire « l'Esprit a fait que, l'Esprit nous a conduits là ». Et j'aime pas la manière dont c'est repris, parfois dans les communautés nouvelles, où on joue beaucoup là-dessus, on va ouvrir la Bible au hasard et on va dire « Dieu me dit ». Je trouve ça dangereux, je suis très rationnel et je crois que c'est important, mais je peux pas nier qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et quand j'ai été élu, j'ai pas hésité une seconde.
Témoin RCF.
Juillet 99, voici donc le père Bruno Cadard, assistant du responsable des prêtres du Prado de France.
Ça veut dire quoi? C'est un service. On aide des prêtres du Prado en France à se réunir régulièrement, à faire équipe, à avoir des retraites, à avoir des sessions, à avoir des formations, à pouvoir faire, si possible, tous les 10 ans un mois de retraite et relire tout le livre du père Chevrier, le véritable disciple. On aide des prêtres à, si possible, au bout de 10 ans de ministère, à prendre une année complète. Ça peut être l'équivalent de l'année ignatienne, du 3e an. Mais ça peut être aussi un moment où un prêtre est en crise, on est alerté, on va le voir, on lui dit « tu n'accepterais pas de prendre un an ». Et ça se passe à Limonest. Donc ils ont plus de ministère pendant un an, ils acceptent d'être en temps de prière, et de passer des heures à faire étude d'évangile, et d'avoir un petit service auprès des plus pauvres. Et j'étais convaincu que jamais j'y serais heureux. Je ne suis pas littéraire, j'aime pas parler. Je suis à l'aise auprès de quelqu'un, mais pas à faire des topos. Et j'étais profondément heureux de ce ministère. Et ça a été la même chose. En fait, comme je ne savais pas trop parler, j'ai surtout proposé des retraites où le matin, je dis, on va prendre tel texte. Je vous propose de passer 2 heures chacun à faire étude d'évangile. Et puis à 11h, on se retrouve et plusieurs vont vous partager leur découverte. Et puis je gardais un petit moment pour moi. J'étais émerveillé de ce que peut produire cet évangile partagé entre des prêtres. J'étais aussi appelé par des prêtres qui étaient à des moments difficiles, et émerveillé de ce service, et émerveillé de voir des gens se laisser toucher par le Christ.
Et alors, cette idée-là de garder du temps pour lire l'évangile, pour la prière, pour vous, personnellement, dans votre ministère, au fil des années, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu préserver, justement, et qui est important?
Je l'avais découvert au séminaire, j'étais chaque fois heureux de le faire, mais j'arrivais jamais à le faire. S'il y avait un jour où il fallait rendre quelque chose, je le faisais, mais j'en trouvais jamais le temps. Et ma première année comme prêtre, je n'en ai pas trouvé le temps. Je l'ai fait avec les Portugais qui ont lancé leurs équipes. Mais j'en trouvais pas le temps pour moi-même. Il a fallu que je boive le bouillon, hein, que j'ai ce moment de fatigue fort. Et là, j'ai pris une journée chaque semaine et c'est devenu vital. C'était une nécessité. Enfin. Ensuite, j'ai trois types d'études d'évangile. Je commence chaque journée en recopiant l'évangile, systématiquement, parce que sinon, j'ai, je sais, je connais. Donc, la première chose que je fais chaque matin, c'est de taper l'évangile. Et puis, de le méditer, pour que ce soit présent toute la journée. La deuxième chose, c'est de prévoir des plages horaires fortes. Hein, ça peut être une journée par semaine, ça dépend des périodes de ma vie, des moments, où je vais prendre un thème. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur c'est quoi se faire conduire par l'Esprit Saint. C'est aussi en lien avec tout ce qui se dit sur le renouveau charismatique ou autre. Enfin, comment, quand on regarde l'Évangile, quand on regarde les Actes des Apôtres, les lettres de Paul, on peut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Mais j'ai fait d'autres études, les combats, les souffrances de Paul, la prière de Jésus, parce que j'avais du mal à prier, je me dis, on va regarder comment Jésus fait. Donc ça me marque beaucoup, et ça m'a aidé après pour prêcher des retraites. La troisième forme d'étude d'évangile, c'est ce que j'appelle l'étude d'évangile enrichie. M'obliger dans toutes les rencontres que je peux avoir avec des chrétiens à ce que ce soit basé sur l'évangile. Et par exemple, en ce moment, tous les soirs, je lis un chapitre des Actes avec une communauté. Et c'est eux qui la commentent. Et malgré moi, ils m'immergent dans les Actes des Apôtres. Et je m'aperçois que ça transforme une personne. Parce qu'en fait, je parle forcément en référence avec ce que je reçois de ce que d'autres m'ont dit de l'évangile. Et parce que si je veux essayer de parler ou d'avoir les pensées de Jésus, ben, il n'y a pas d'autre moyen que de le fréquenter dans sa parole. Ce qui m'impressionne, c'est de voir d'autres s'y mettre. Hein. Là, j'accompagne un jeune qui a 19 ans. Et il a envie d'être prêtre. Il est agriculteur, il travaille dans le café. Il s'est mis tous les jours à commencer la journée par copier l'évangile.
Au Brésil. Hein,
au Brésil, oui. Par faire étude d'évangile, il a un cahier de vie. Il essaye tous les jours de noter où il a vu le... C'est extraordinaire de voir sa joie. Et donc je sais que c'est un moyen qui n'est pas que pour nous.
Alors je voudrais qu'on ait juste quelques minutes justement pour parler un peu du Brésil, mais avant cela, quelque chose quand même, vous avez évoqué à deux reprises je crois depuis le début de cet entretien, le vélo. Et le vélo, c'est quelque chose d'important aussi dans votre vie.
Oui, j'en fais depuis longtemps, je ne suis pas du tout doué, mais c'est pour moi, on a besoin de sport, c'est un moyen de rencontre extraordinaire. Et ces dernières années, quand j'étais permanent, ça a pris une autre dimension parce que j'étais en vacances toujours en décalé de tout le monde et je cherchais un mode de vacances qui me maintienne au Christ. Et la première fois, je suis parti à... La première fois que j'ai fait un long voyage, enfin, un peu de ce type-là, ça a été au moment de changer pour Vitry, où j'avais un peu peur de ce changement et je n'étais pas très confiant. Et j'ai fait un peu comme les Portugais, je me dis, je vais à Fatima. Eux, quand c'est difficile, ils vont à Fatima à pied, j'étais en vélo. Après, j'ai fait le chemin pour Rome, Assise et Rome. Puis j'étais jusqu'à Brindisi parce que je rêvais d'aller à Jérusalem. Et en fait, l'année suivante, j'ai pris l'avion et je suis allé à Amman. Pour des questions politiques, Amman, c'est à la hauteur de Jérusalem, ça évite de passer la frontière. Hein. Et j'ai fait les pas de Saint-Paul jusqu'à Athènes. Alors ça m'aidait de plusieurs manières, parce que pendant toute l'année, il fallait étudier les lieux. Je me préparais mes fiches, je lisais, j'ai fait étude des évangiles sur tout ce qui se passait sur chaque ville. Et après, de fait, j'ai fait en 30 jours la distance de Amman à Athènes, en lisant dans tous les lieux la parole qui correspondait. Et ma grande question, c'est qu'est-ce qui permet d'espérer, hein? Quand vous vivez en banlieue, que vous voyez la vie des gens, que vous la voyez s'enfoncer, ce que je vois au Brésil ne m'enthousiasme pas non plus. Ce qu'on voit de la crise aujourd'hui n'en est pas très enthousiasmant, enfin, aussi bien économique que humaine. La crise de l'Église, hein? On parle de manque de vocation, mais... Je suis souvent assez inquiet devant l'évolution, le raidissement de l'Église, la fermeture, quelques personnes de bons chrétiens qui s'enferment dans leur certitude, qui jugent tous les autres. Mais bon, il y a eu des événements récents, plus publics, mais pour moi, c'est une face émergée de l'iceberg. Et qu'est-ce qui me permet d'espérer là-dedans, hein? Et quand comme permanent du Prado, je voyais les prêtres de France, la moyenne d'âge est supérieure à 70 ans, leur vie est dure. Comment garder l'espérance? Et donc le vélo, c'était un moyen de me détendre. C'était un moyen de faire avec mes jambes un plongeon dans l'église primitive. Et c'est impressionnant parce qu'à chaque étape, chaque soir, je lisais et c'était toujours persécution, persécution, persécution. Et vous passez dans des lieux où Paul a tout donné et il ne reste rien. À Tarse, il n'y a pas un seul chrétien. À Antioche, sous l'Oronte de Syrie, qui est la base missionnaire de Paul. Là, il y a 1000 chrétiens, hein, dans une ville bien plus importante. Il y a 900 orthodoxes, 100 catholiques, avec une vraie communion entre eux. Ça, c'était c'est beau, quoi. Mais vous passez à Éphèse, il reste quoi? Il reste un franciscain et deux franciscaines. Un point, c'est tout. Vous essayez de visiter Éphèse, les lieux forts sont cachés. Pour trouver la basilique d'Éphèse, cette basilique où il y a le concile, où on a parlé de Marie, Mère de Dieu, il faut vraiment chercher, il faut le vouloir. Il y a vraiment eu une élimination du fait religieux chrétien. Et de faire ça en vélo, de lire les textes, pour moi, ça m'a profondément renouvelé mon espérance. Une espérance qui n'est pas de dire ça va aller mieux, ça sera mieux demain. Une espérance, au contraire, qui regarde sans cesse la croix, qui a la conviction que ça fait 20 ans que je répète ça tout le temps, que des fois mes parents me disent mais tu vois que le négatif, ou je me souviens de mon évêque me disant mais tu vois que ça. Le père Labine m'avait invité pendant mon mandat au Prado de France à venir parler, et je décrivais tout ce que je voyais s'écrouler. Il me dit mais tu vois que ça, enfin, est-ce que tu manques de foi? Et on dit souvent que le chrétien c'est quelqu'un qui doit respirer la joie. Mon évêque actuel écrit un livre sur la joie. J'ai fait une étude d'évangile à la suite de cette provocation de mon évêque, je me suis lancé sur les sentiments dans l'évangile. J'avais commencé sur la joie, mais j'ai vite vu que ce n'était pas le sentiment dominant, de loin. Il est très peu présent, ce sentiment de joie. Et mon expérience aussi dans les soins palliatifs, j'ai beaucoup utilisé l'expression de joie souffrante. Dans des situations dramatiques, combien de personnes ont dit « j'ai jamais tant vécu, j'ai jamais tant existé au moment de mourir ». Et pour moi, ces voyages en vélo, c'était un peu ça. C'est qu'est-ce qui peut me donner de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me donner d'espérer? J'ai beaucoup médité des phrases comme Paul, qui dit qu'on vit souvent en ennemi de la croix, ou de saint Augustin qui dit qu'on a méprisé le troupeau, on ne l'a pas averti, on ne lui a pas parlé de la croix. On ne lui a pas annoncé. L'Église parfois est tentée d'attirer par autre chose, par des choses où il y aura du monde, où il y aura de l'ambiance. C'est une tentation phénoménale au Brésil, on va faire des guérisons, des machins.
Mais quelle est la réponse alors?
C'est le chemin du Christ. Et quand vous regardez son chemin, lui, ben, il pleure sur Jérusalem. Hein. Quand il est au terme de son parcours, qu'il arrive à Jérusalem, il pleure devant ce monde qui le rejette, qui ne l'accueille pas, et il continue. Et il ne change pas quand il fait le discours sur le pain, qu'il fait la multiplication des pains, tout le monde veut manger à satiété. Et lui, il annonce la croix. Et on dit que les disciples s'en vont. Et il ne dit pas, on va changer de discours. On va avoir un discours qui passe mieux. Il dit, et vous voulez vous en aller aussi? Et c'est là que l'Esprit-Saint fait surgir ses paroles en Pierre. Et à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle? On médite en ce moment à Dorès le texte d'Athènes. Paul qui arrive à Athènes, qui a été persécuté dans tous les lieux précédents. Exclu, qui a dû fuir en avant de Bérée. À Athènes, il essaye de parler à cette société qui ressemble mais très pour très à la société actuelle. Il n'y a pas Internet, mais c'est impressionnant de voir combien les gens communiquaient, combien ils voyageaient. Quand vous visitez les ruines de Pergé, vous voyez une société toute centrée sur le corps, sur le luxe, sur le plaisir. Les académies qu'on voit partout au Brésil, dans le moindre petit village, vous avez l'académie pour soigner votre corps. Pour moi, ça me paraît complètement aberrant. Et c'est ce qui occupe tout le monde. Et il y a toute cette prostitution sacrée, cet appel au plaisir immédiat. Et là, Paul, il accueille tout. Il a manifestement lu les poètes de l'époque, puisqu'il les cite. Et puis, il annonce la résurrection. Et là, on dit, mais là-dessus, on t'écoutera un autre jour. Et puis, il est de nouveau persécuté. Il doit de nouveau s'en aller. Et je crois qu'on n'est pas appelé à chercher des techniques ou de nouveaux trucs, mais vraiment à se lier à la parole et au Christ dans la parole.
Et c'est ça que vous expérimentez aujourd'hui encore, comme depuis le début de votre ministère, avec les chrétiens du Brésil, de ce diocèse de Espírito Santo, c'est ça?
Espírito Santo.
L'Esprit Saint.
Ouais, je ne sais pas d'où vient l'Esprit, où il va, mais je sais où il est, l'État d'Esprit Saint. Oui, c'est étonnant ce nom d'État. C'est un petit État qui est à la hauteur de Victoria, c'est donc à 500 km au nord de Rio de Janeiro. C'est dans le deuxième virage de la côte. Il y a un grand virage au nord, la côte part d'abord en plein est, puis elle se casse et elle se recasse pour repartir. Et là, oui, je suis impressionné par la force de la parole de Dieu dans le cœur des gens. Il y a une communauté qui était très cassée, très déglinguée par les groupes évangéliques. Je vais même leur mettre le mot de secte. Je ne sais pas quelle est la réalité en France, donc je parle de ce que je connais au Brésil, pas d'autre chose. J'ai toujours du mal à parler de ça parce que J'aime pas parler de façon négative d'autres. Et en même temps, il nous faut bien nommer ce qui détruit. Et là, par exemple, la communauté Sainte-Isabelle où je suis arrivé, il y a des groupes de l'Assemblée de Dieu qui se sont mis à visiter systématiquement les familles chrétiennes, catholiques, là, et à les déstructurer, à les provoquer à sortir, à se séparer. Et tous les mois, il y avait des gens qui passaient l'église catholique à l'église évangélique. Entre autres, il y avait un certain Marcel, c'était le mari de la responsable de la communauté, laquelle responsable savait ni lire ni écrire. Et Marcel, chaque fois qu'il allait au temple, enfin le temple, c'était une salle, dans un hangar, on lui disait que sa femme, ses enfants étaient des démons, parce qu'ils n'étaient pas encore entrés dans l'Assemblée de Dieu. Donc j'ai beaucoup visité cette communauté. On a commencé à lire, c'est avec eux que j'ai commencé le plus, à lire la parole de Dieu. Et quelques mois après, le Prado m'a demandé d'animer un mois pradosien, donc de faire venir des prêtres du tout le Brésil, en fait on était 8. Et l'endroit qu'on a trouvé pour être accueillis, ça a été dans cette communauté. Et tous les soirs, j'avais proposé aux gens de ce hameau, enfin c'était des maisons épars, c'est même pas un hameau, de venir prier avec nous. Et après la proclamation de l'évangile, la règle c'était que les prêtres se taisaient et que chacun des laïcs allait commenter l'évangile. Ils nous ont prêché le mois pradosien. Et c'était impressionnant de voir comment, à partir de là, en lisant l'évangile, en lisant eux-mêmes, ça donne un dynamisme. Ils m'ont alerté, il y a 5 km là-bas, en bas du ravin, il y a une communauté, le prêtre voisin est en catastrophe, il est en état scandaleux. Il y avait tout, pédophilie, tout. Et ils ne visitent plus cette communauté. C'est la frontière entre trois états, le Minas Gerais, le Rio de Janeiro et l'Espiritu Santo. C'est un lieu de drogue, c'est un lieu d'alcool. Il y a eu 3 morts. Il n'y a jamais la police qui intervient. 70% des homicides au Brésil ne sont pas... Il n'y a aucune enquête. Et les gens ont peur et ne sortent plus. Est-ce qu'on pourrait y aller? C'est impressionnant comment la lecture de la parole les faisait lancer autre chose. Et la communauté était relancée. Et puis, dans une autre communauté, un peu pareil, qui était déstructurée, au début, les gens ne parlaient pas, ne disaient rien. Et un soir, tous voulaient parler à la fois. Le fait de qu'on leur donne la parole, qu'on les provoque à lire les actes, ils le faisaient chez eux. Tous voulaient prendre la parole à la fois. Il y a juste 2 femmes qui sont restées silencieuses tout du long. Et elles n'avaient pas la Bible, les autres l'avaient tous. Et à la fin, on était debout, on était prêts à partir. J'allais dire notre père et j'ai lancé. Mais on pourrait comme ça, de mémoire, redire une phrase qui nous a touchés. Et l'une de ces 2 femmes prend la parole directe et elle dit « Eh bien moi, la parole qui m'a touchée, c'est quand Paul dit, c'était dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, au centre de la Turquie, « Homme d'Israël, et vous tous qui êtes ici, écoutez bien. » Il dit « Parce que moi... » Je ne sais pas parler, je ne sais rien, je ne sais pas lire, mais je peux écouter. Et puis elle s'est mise à parler de tout ce que cette parole faisait dans son cœur et comment, quand elle rentrait chez elle, elle n'arrêtait pas d'en parler et elle la partageait avec ses voisins. Et j'ai fini par me tourner vers elle et je dis « Madame, vous êtes une menteuse. » Alors là, elle est cramoisée. Je dis « Si, vous êtes une menteuse, vous venez de dire que vous ne savez pas parler et vous n'arrêtez pas de parler. » Et c'était lui faire prendre conscience de combien la parole de Dieu lui donnait la parole. Et ça, j'aurais 10 000 exemples comme ça.
À travers tout ce que vous dites, on sent ça en filigrane, une parole qui transforme en fait.
Complètement. Qui transforme et y compris qui redonne une dignité. Une autre communauté où il y a 5 familles, très marquées par l'alcool, mari, femme, à se tuer quoi, quasiment. Des fois il y a une intervention d'un voisin qui arrête. Et avec eux, on s'est mis à lire la parole aussi. Et aucun n'est marié. Et ils ont fini par demander le mariage à l'église. J'avais jamais mesuré à ce point-là combien la parole, combien les sacrements nous donnent notre dignité. Hein, c'est une famille où ils ne sont pas encore sortis de l'alcool, on va d'une catastrophe à une catastrophe, mais il y a eu un changement déjà. Et j'avais jamais senti si fort combien la rencontre de la parole de Dieu, le fait aussi d'être connu digne de se marier, alors bon, eux, c'est de manière très, très forte, mais je suis sûr que ça vaudrait le coup de leur découvrir en Occident, hein, quand on est plus tenté de cohabiter ou autre. De repercevoir la dimension sacrée de notre vie, la dimension sacrée de l'amour qu'on a. Et ce qui nous le révèle, c'est la parole. Nombre de couples qui viennent préparer le mariage, j'essaye de les provoquer, je dis, mais essayez de, puisque c'est assez facile pour eux, essayez de lire l'évangile. Et une fois par semaine, vous lisez ensemble, vous lisez l'évangile du dimanche, vous faites silence, vous partagez la parole qui vous a touché, vous relisez la semaine, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été dur, de quoi je peux te demander pardon. Combien m'ont témoigné de ce que ça avait transformé pour eux.
C'est sur cette invitation à lire la parole de Dieu que l'émission se termine. Père Bruno Cadard, merci beaucoup d'être venu témoigner de tout ce vécu-là.
Merci.